Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue en ce vendredi 1er mars, premier jour de ce mois de mars 2024. Et oui, on est ensemble pour fermer cette marche de la semaine avec toute l'équipe de Time Sport à la suite des informés d'Azil Farkan qu'on pourra retrouver dès ce lundi soir. Et oui, avec toute son équipe, 19h-20h. On le rappelle, le créneau horaire d'Azil sur l'antenne de Beurre FM. Mais ce soir, au programme de cette émission, excusez-moi, de ce vendredi soir, on va parler de quoi ? De Deschamps et le fameux cas Paul Pogba. Eh oui, du côté de la Juventus de Turin, la vieille dame italienne, il s'en passe des choses. On va revenir, c'est promis, sur cela. Sans oublier la Ligue Uber Eats avec Monaco Paris Saint-Germain. Eh oui, le PSG, l'ombre du PSG, plane sur le rocher monégasque. Et on parlera, on va terminer cette émission avec le Marseille d'un certain Gassé en mode conquérant dans cette fameuse Ligue 1 Uber Eats. Le 01 53 48 3000, rien de plus simple pour réagir, c'est le numéro du standard de Beurre FM. Paris sans Mbappé, plus serein selon vous? C'est la question que l'on s'est posée avec toute l'équipe de Time Sport et aussi que l'on vous pose ce soir, chers auditrices et auditeurs. On va parler, c'est promis, un peu aller de boxe et sans oublier aussi la Formule 1, Paul pour un certain Verstappen du côté de Bahreïn. Allez, c'est parti, go Time Sport.
Time Sport. Il est pour parler.
Allez, ce soir on est en compagnie, on sera en compagnie de notre journaliste consultante Alison, sans oublier aussi Vivien. Il est là avec nous encore, c'est Moha qui ferme justement la dernière des émissions de la semaine avec toute l'équipe.
Bonsoir Bilal.
Comment ça va?
Bonsoir à tous, à tous nos auditeurs et auditrices.
Le vendredi, tu es un peu plus serein, j'ai l'impression.
Un peu plus serein, c'est le vendredi saint, on est un peu plus apaisé.
Ah ouais.
Et c'est très c'est heureux ça. Surtout de terminer la semaine sur la plus belle des radios comme d'habitude.
Eh ben c'est très sympa. Mais c'est sympa, on est bien entouré avec Moha justement, le duc qui est avec nous ce soir encore une fois sur l'antenne de Beurre FM. Allez, c'est Nasser avant de filer sur d'autres justement d'horizon, où il veut en tout cas, parce que Nasser faut le suivre parce qu'on le perd des fois à travers les stades européens, mais il est avec nous ce soir encore une fois rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs. Bonsoir Nasser, comment ça va?
Voilà, c'est la piacere, ça fait plaisir d'être avec vous ce soir à Beurre FM à Paris. Profitez de ce moment sur le plateau avant de retourner dans les stades dès la semaine prochaine, car vous le savez, la semaine prochaine, on va encore se régaler, on sera encore dans plein de stades dans la Serie A italienne. Oui. On fera vivre tout ça aux auditrices et aux auditeurs. Un petit clin d'œil à la Serie A. Mais avant de commencer cette émission, j'avais envie de faire un petit clin d'œil déjà à Mathieu et Benjamin qui étaient là hier soir et à tous ceux qui étaient autour
Mathieu
de la table.
Et Benjamin,
Et oui, parce qu'on avait parlé de la Coupe de France de football avec cette équipe du Puy, le Puy-en-Velay, le pays de la lentille, qui affrontait le Stade Rennais. Et le Puy-en-Velay, malgré sa défaite, a fait un match extraordinaire hier soir.
Pas faux.
Et il faut le dire, ils avaient le niveau pour jouer plus haut. Et je voulais rendre hommage au football amateur.
Eh ben voilà, c'est rendu cet hommage justement au football amateur. Allez, il est avec nous à la réalisation. C'est Solal qu'on retrouve ce soir jusqu'à 23h. On aura aussi Vanessa, 21h, 23h. Bonsoir Solal.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, le studio a pris un coup de jeune avec Zach et Elias sont arrivés là studio. Deux jeunes chroniqueurs talentueux.
On va faire des jaloux, on va courir après tout le monde.
C'est une passion familiale. Écoutez, très content d'être toujours sur ce plateau. Accompagné de gens très talentueux, on a des pépites en vrai à chaque fois, à chaque soir.
Des pépites qui viennent de s'installer là aussi.
Voilà, exactement.
Un beau bébé,
qui prend son temps, mais qui est toujours très fin et qui a une expertise incroyable, que ce soit en NBA ou bien sur le football, amateur ou professionnel. Faites un tonnerre de bruit pour Vivien, s'il vous plaît.
Vivien qui nous a rejoint. On le présentait en ce début d'émission. Bonsoir Vivien, comment ça va?
Bonsoir Bilal, ça va bien.
Tranquillement.
Moi j'étais un peu triste cette semaine avec la Ligue des Nations.
On en a parlé, HD était là-bas. On est revenu sur cette. Oui, je croyais moi aussi. Mais bon, ça l'a pas fait vivre.
On a fait du tourisme à Séville, malheureusement.
Oui, c'est bien le tourisme du côté de la plaine ibérique. Kadejad, et comme le disait Juan Trossé. Mais bon, ça serait peut-être une prochaine pour les JO 2024. Ça me fait sourire. Je vais m'adresser directement à lui. Nasser est bien là, juste en face de Moha, c'est l'équipe de France. Et oui, Didier Deschamps qui réagit à la lourde suspension de Paul Pogba. Là aussi, il y a encore des choses à dire, faut pas l'oublier. Assez serein, Paul Pogba, la pioche.
Je lui souhaite, parce que la situation elle est super triste, pas uniquement pour lui, parce que c'est quelque chose de grave. Tu termines ta carrière finalement,
Oui. 4 ans.
Je pense à Didier Deschamps, je pense à l'équipe de France et à une citation de Paul Pogba lors d'une conférence de presse où Guillaume Dufy, un de nos confrères de l'équipe, lui avait posé la question: pourquoi tu dis que c'est peut-être ta dernière Coupe du Monde? Et finalement, c'était sa dernière Coupe du Monde.
Oui.
Et il disait, oui, il faut être réaliste, on ne sait pas de quoi peut être fait le futur. Et moi, cette scène, elle m'a brisé le cœur. Et tout comme les commentaires de Didier Deschamps, qui lui donne tout son soutien, et c'est mérité. On parle quand même d'un des cadres de l'équipe de France. C'est tout à fait normal que le sélectionneur lui donne son soutien. Après, je ne sais pas trop si Didier Deschamps comptera sur lui dans des échéances futures. Parce que le milieu de terrain de l'équipe de France, faut pas l'oublier, c'est pas vide quand même. Il y a beaucoup de grands joueurs, de talents et jeunes en plus de ça. Du coup, ça risque d'être un peu compliqué pour la pioche. Je suis juste attentif à sa situation et à l'appel qu'il a déposé juste après la décision. J'espère que ça va bien se passer pour lui, mais ça a l'air d'être compliqué et ça a l'air d'être très confirmé. Ce qui est encore plus triste dans sa situation, c'est qu'il a sûrement pris ces produits-là pour récupérer de ses blessures qui commençaient à être vachement répétitives du côté de la Juventus de Turin. Je sais pas, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui veut s'en sortir, mais le règlement, c'est le règlement, malheureusement.
Le règlement, c'est le règlement. Attention aussi, hein, les personnes qui se sont peut-être immiscées dans cette affaire aussi, on sait pas encore, hein. Attention,
exactement,
hein.
Ouais, exactement. Mais exactement, ça, parce que bon,
il, ça. Vivien il, aussi, j'ai l'impression.
Même, je rebondis sur ce que dit Moha.
Ouais, alors.
Paul Pogba reste quand même un grand compétiteur. Il a été, pour le moment, on peut le dire, soupçonné de dopage, puisqu'il n'est pas encore condamné.
Ouais.
Il y a un appel, et justement, il a bien fait de faire l'appel. Et ils vont débattre sur le fond maintenant, plus sur la forme. Et puis, on verra bien exactement la sanction. Moi, je pense que ça sera plus revu à la baisse, cette sanction. Du moins, je le souhaite, comme j'ai pu le souhaiter pour d'autres cas dans des affaires qui étaient aussi graves. Je parle notamment de Mendy, de Galtier,
oui,
et d'autres sur l'antenne de Beurre FM, un des seuls médias qui a toujours défendu la présomption d'innocence.
Et on
continue
toujours.
Et on le fait
bien
encore
sûr.
Ce soir.
Et
c'est
bien
pour
en
ça. On ne tire pas sur l'ambulance et on a envie de dire aussi, pourquoi pas, le soutenir, entre guillemets. C'est-à-dire dans un moment difficile, on doit aussi être là et faire preuve un peu de bienveillance.
Mais si je peux rebondir sur les mots de Nasser, chose qui est un peu rare de nos jours sur le cas Paul Pogba. Moi, c'est un joueur qui a marqué ma jeunesse parce que...
Il a marqué tout le monde,
Bien sûr, mais c'est un peu une référence pour les jeunes amateurs de football. Et le manque de respect que ce joueur a subi, Nasser, je pense que tu peux en témoigner en Serie A, c'est quelqu'un qui a martyrisé les milieux de terrain du côté de Turin.
Oui.
Peu importe les équipes qu'il a affrontées, son retour à Manchester, il s'en est mangé plein la tronche, si je peux me permettre, par des légendes même du club. Hein. Je pense à Paul Scholes, légende ultime, mais je pense qu'il peut pas parler à Paul Pogba au niveau de la technique et de la classe sur un milieu de terrain. Et manquer de respect à un joueur comme ça, je trouve que c'est bien de mettre un peu de bienveillance, comme tu dis Nasser, sur son nom, parce que c'est mérité, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de bonheur à l'équipe de France et à tous les amateurs de football en général.
Ah oui, parce que sinon on remet encore en cause, et je laisserai parler Vivien, mais on remet en cause, parce que s'il était condamné, hein, je dis bien, attention, on remettra en cause beaucoup de choses. Je vous rappelle quand même qu'il a été décoré de la Légion d'honneur. Et que ça reste quand même une icône du football français, du football européen, et aussi c'est l'image pour les jeunes à venir. Et donc là, ça pourrait remettre en cause beaucoup de choses. Mais en attendant, moi j'ai envie de le soutenir. On est tous là autour de la table, on est tous d'accord pour dire on est avec lui et on le soutient.
Bien sûr. Mais viens, Paul Pogba justement.
Alors, un mot pour compléter.
Pour cette affaire.
Je suis un petit peu triste comme tout le monde parce que pas seulement pour cette affaire, moi je trouve qu'on a assisté à la déchéance d'un homme, d'un joueur très talentueux qui a eu des soucis avec ses frères, qui a eu des tentatives d'escroquerie, de braquage. Enfin, moi honnêtement, si en début 2019 on m'avait raconté ça, moi j'aurais pas cru. J'aurais cru que j'étais en train de regarder une nouvelle saison de 24 heures chrono. Enfin, moi c'est que dans une série où j'ai eu quelqu'un qui est comme ça, qui est champion du monde, qui fait quand même une belle Ligue des Nations 2021 aussi, une phase d'Euro 2020 assez correcte malgré tout. Mais voilà, en club, comme disait moi, peut-être qu'il aurait dû éviter de retourner à Manchester.
Oui. Ouais,
parce que, on a même vu avec ça comme Cristiano Ronaldo. Donc, parfois, ces choix de club, peut-être qu'ils n'ont pas toujours été les bons. Et puis après, l'entourage, il se prend ça. Et puis là, après, il y a ce choix. On attend de voir, encore une fois. Moi, tant que c'est pas confirmé, mais là, ça commence à être compliqué. Et puis voilà, moi justement, je pense que la meilleure réponse qu'il pourrait donner, ce serait de pas prendre sa retraite justement. Moi le cas qui me vient comme ça à l'esprit, ouais, c'est le cas de Mamadou Sakho. Il faut se rappeler Mamadou Sakho. Et il a eu comme ça une... Alors, il faut qu'on fasse attention dans ces termes un peu juridiques. C'est qu'avant l'Euro 2016, il avait été... Alors, c'était le tribunal à l'époque. C'était pas le TAS, mais c'était la FLD qui l'avait mis un test positif sur soi-disant des brûleurs de graisse. Et au final, il avait été acquitté. Donc là, peut-être que ce sera pas le cas. Peut-être qu'il sera reconnu coupable. C'est vrai que 4 ans, je trouve que
C'est lourd. Hein.
Mais je vais même aller plus loin. C'est que même s'il prend 1 ou 2 ans... C'est quand même un gros challenge parce que on part aussi quelqu'un qui a un corps qui est pour moi blessé depuis fin 2021, début 2022, et c'est là où physiquement c'est très très long. Et puis c'est quelqu'un qui a commencé jeune. Parfois ce sont des sportifs comme ça qui commencent très très jeune, et puis quand ils accumulent les blessures, c'est très très long de revenir.
Tout à fait. Alors, il y a aussi un point pour moi qui est intéressant et qui, moi, m'affecte beaucoup moins que si ça avait été dans une autre situation. En fait, ça a été beaucoup moins brutal pour moi quand j'ai appris que Paul Pogba était potentiellement écarté des terrains, tout simplement parce que ça faisait déjà un petit moment qu'il était moins dans l'actualité sportive, que l'actualité sportive, tout simplement, faisait moins ses éloges de par ses blessures, ses absences aussi dans des grands matchs. Donc c'est vrai que ça a été un peu moins brutal pour moi, la pilule est un peu mieux passée, alors que ça aurait pu être totalement différent si c'était tombé à son prime ou juste après une victoire en finale de Coupe du Monde qu'il aurait pu potentiellement gagner avec cette France s'il avait joué avec l'équipe de France. Mais ouais, pour revenir sur ce Paul Pogba, c'est vrai que ça fait partie des joueurs où je me sens très touché de son absence dans le monde du football professionnel. Ouais. C'est quelqu'un que je regardais de loin ou de près, mais qui a toujours su attirer les gens et qui avait aussi une signature. C'est très important de le dire. La signature d'un joueur de foot, c'est ce qui le rend différent, ce qui le rend particulier, ce qui peut le rendre touchant. Et quand on regarde ces vidéos-là, ces moments forts de Paul Pogba, on peut en parler des heures de ses virgules qui venaient casser des reins, de ses frappes qu'il lâchait de très loin et en célébrant avec une attitude mais qui puait la NBA américaine. C'était hallucinant. Ouais. Quand on le voyait, il avait des inspirations et une culture qui provenait de plein de choses différentes, et il respirait ce foot à travers aussi des moments qu'il avait pu passer à regarder aussi d'autres joueurs. Donc ça, il véhiculait beaucoup de choses, il véhiculait énormément de choses, et cette signature Pogba là, je pense et j'en suis certain, qu'on va plus la retrouver avant très longtemps.
Aïe aïe aïe, elle va manquer, Moha.
Triste, je reprends les mots de Solal. C'est quelqu'un qui représente à mes yeux la culture dans un grand sens du terme, la culture du football et la culture surtout de la France. La France, la mienne, celle des banlieues, celle de la rue, du football artistique, du football spectaculaire. On a eu un peu la génération de jaloux, où certaines générations avaient Zizou, certaines générations avaient Djorkaeff, et nous on a eu Paul Pogba. Et moi je pense vraiment à sa période à la Juventus de Turin, où je pensais vraiment que c'était littéralement l'héritier du grand Zinedine Zidane, physiquement imprenable.
Ça, il y en a eu beaucoup.
Bien sûr, il y en a eu beaucoup, mais physiquement, une présence physique sur le terrain qui était impressionnante. Il a joué en Serie A, il n'a pas joué dans un championnat comme la Liga où c'est un peu caresser la balle, quelque chose de très léger. La Serie A, c'est au-delà d'une tactique, c'est très dur physiquement. Et il s'est imposé en patron et représentait ça, cette jeunesse-là de la France qui s'imposait autre part. Et je te rejoins, Vivien, franchement, le choix de Manchester United, c'est quelque chose que je comprends pas encore aujourd'hui.
Oui, après c'est peut-être entre les choix des sponsors, l'entourage est là où, encore une fois, le plus dur dans le sport, c'est de durer. On le voit, les quelques monstres dans d'autres sports qui arrivent à durer, c'est souvent faut avoir le bon entourage. On voit que là ça a été un peu compliqué.
Là aussi.
Et puis il faut garder la tête froide, surtout quand t'es dans le sport comme ça, numéro un. Donc c'est pour ça que j'attends de voir, mais c'est vrai que si c'est avéré, je me dirais c'est encore plus dommage de vouloir peut-être précipiter quelque chose, alors que déjà son année 2023 était très compliquée footballistiquement parlant. Donc je crois qu'il avait plutôt le temps justement. Donc
c'est la pause effectivement. Alors dans ce cas-là, c'était juste pour dire ce qu'on avait dit hier. Surtout, c'était par rapport au fait qu'il était blessé et que la Juve voulait s'en séparer. Et puis tout d'un coup, il y a eu cette affaire de dopage. Et moi, je reste quand même un petit peu.
Mais justement, nous aussi, on suivra ça de près.
C'est vraiment 24 heures chrono.
Ça rigole ça, toi aussi. Hein, en tout cas, vous restez avec nous, chers auditeurs. On va revenir sur le cas du Paris Saint-Germain en Ligue 1 Uber Eats face au Monégasque. À dessus.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours là en ce vendredi soir. On est ensemble avec toute l'équipe, justement, de Time Sport, 20h et 16 minutes. On a qui autour de la table? Alison, Vivien, sans oublier aussi Moussa, on a Moha et aussi notre Nasser qui est avec nous, le 01 53 48 3000. Et ben voilà, c'est pour revenir sur le second gros dossier de cette émission. On y va.
Time Sport. La parole des sociaux.
Un petit clin d'œil à Juba, la Meseta. Eh oui, c'est la fameuse péninsule ibérique, hein, justement en Espagne. On parlait de Séville, c'est pour ça. Ça nous a fait voyager. On va voyager encore du côté de Bahreïn. Eh oui, hein, du côté de Bahreïn avec le Grand Prix, la F1, le championnat de F1 reprend dès demain à 16h, où on apercevra aussi encore une pole position d'un certain Max Verstappen. On peut noter aussi encore une fois que le cheval cabran, hein, de Charles Leclerc, les Ferrari sont bel et bien là. Attention.
Sont bel et bien là. Après, Verstappen, c'est un peu dans ses habitudes. C'est pas quelque chose de surprenant. On a vu ses essais. Et il signe un temps de 1,29 et 179 centièmes. C'est de la pure folie à ce stade-là. Ouais. Et ça m'étonne même pas. Et comme tu l'as dit, il reste encore les ferraristes, si je peux me permettre, avec Charles Leclerc.
Attention,
j'ai beaucoup de
du renouveau,
mais après Bilal, je suis un peu pessimiste
moi,
en ce qui concerne Ferrari. Charles Leclerc est sûrement un de mes pilotes préférés, si ce n'est mon préféré actuellement.
Bien sûr.
Et le voir géré par les plus mauvais stratèges qu'on peut retrouver sur les circuits aujourd'hui, ça me désole complètement. Je reviens sur les mots que j'utilisais sur le Real Madrid et cette espèce d'hégémonie sur le football. Et voir Max Verstappen gagner une énième fois alors qu'on a un Charles Leclerc national français qui peut s'imposer sur les circuits du Bahreïn, du coup, en l'occurrence, c'est un peu triste de le voir géré par une telle écurie, quoi, malheureusement.
Allez, choc en vue ce soir du côté du Stade Louis II à Monaco. Le Paris Saint-Germain se déplace donc pour rencontrer ce peuple du football, du Rocher. Hein, il s'agit de l'ultime répétition générale, Moha, avant le huitième de finale retour. Hein, Vivien, face à la Real Sociedad, ce club espagnol. Que dire là aussi? Beaucoup de choses.
Ça va être un match intéressant déjà par rapport à l'adversaire. Parce que déjà, premièrement, ces dernières années, je trouve que Monaco pose souvent beaucoup de problèmes au PSG, et que ce soit au Parc des Princes et à Louis II. Et là, surtout, quand on voit le style offensif proposé par le coach, pour moi, je trouve que Monaco a tout pour au moins ne pas perdre, voire même l'emporter. Et en plus, il ne faut pas oublier, les Parisiens vont être à 3-4 jours du match retour en Espagne.
Attention, il y a toujours la pression qui règne. La pression est toujours là.
Ah mais bien sûr,
le Paris Saint-Germain. Attention.
Moi je sais pas pour les autres, mais moi j'ai jamais dit que le PSG est qualifié. Moi je m'attends à Luis Enrique. Dans les compositions vont tomber dans quelques minutes.
Alors.
Je pense qu'il va faire tourner. Il a beaucoup entretenu le flou. J'espère peut-être par contre qu'il va pas précipiter Nuno Mendes, parce que c'est pas parce qu'il vient de revenir que ça y est, il faut entre guillemets s'emballer et le remettre tout de suite. Même si c'est une solution vraiment sur le long terme dans le projet Enrique, mais moi, clairement, non, c'est un Paris Saint-Germain qui concède pour moi beaucoup trop de situations, qui a absolument aucune marge. Et après, voilà, avec Enrique, moi, comme je l'appelle ici, je dis toujours que c'est le Nikos Aliagas du football, c'est-à-dire un génie, mais qui à chaque fois nous invente des spectacles qu'on ne comprend pas toujours. Donc moi je suis assez inquiet pour réparer ça.
Effectivement,
alors, Nasser, avant de retrouver
pour rebondir sur ce déplacement qui est périlleux du côté de la Côte d'Azur, du côté de l'AS Monaco, n'oublions pas que en principauté, dans un stade qui sera garni pour cette occasion, à la venue de cette équipe parisienne, avant bien sûr son déplacement à la Sociedad, je vous le rappelle. Et puis comme on distribue les cadeaux au mois de mars, au mois d'avril, on saura vraiment si le Paris Saint-Germain est au rendez-vous. Vous le savez très bien, le Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'on arrive au mois de février, au mois de mars, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. On le voit à chaque fois qu'on prend des entraîneurs différents. Alors on verra bien cette année. Cette année, c'est la Real Sociedad. Donc normalement, ça devrait passer. Ouais. Mais je vous rappelle que Marquinhos s'est blessé et touché au mollet. Ouais. Les dernières informations. Kimpembe est aussi out. On a Skriniar, l'ancien de l'Inter, qui est malade aussi. Donc ça fait quand même
et Danilo aussi. Danilo s'est blessé aujourd'hui à l'entraînement.
Alors, au milieu de terrain, ça va pas. Défensivement, ça va pas.
Ouais.
ça va être un peu compliqué face à une équipe monégasque.
Ouais. Une équipe monégasque, je tiens à le rappeler, Allison. Que le Paris Saint-Germain n'a pas battu depuis 4 ans au stade Louis II, à guichet fermé ce soir.
Ah bah là aussi, il y aurait
donc,
du monde. Hein.
C'est au-delà d'un défi et d'une préparation pour la Ligue des Champions, il faudrait déjà s'atteler à respecter une équipe qui te domine à domicile depuis 4 ans, tout simplement.
Ça fait beaucoup.
Et 4 ans, et là, il y a 4 ans, on n'était pas sur le PSG de Luis Enrique en reconstruction comme cette année.
Ouais.
On était sur un PSG qui était en pleine forme.
Ouais.
Neymar était présent. La saison passée, il y avait aussi Lionel Messi qui était là, Kylian Mbappé. Et pourtant, ça bloque toujours du côté du rocher qui met de l'ombre un peu sur le soleil parisien qui essaye de revenir un peu. Mais c'est toujours compliqué au stade Louis II. Il y a pas de, et Monaco, de toute façon, est une très grande équipe de Ligue 1. Il y a pas de souci. Ils sont en très bonne forme cette saison. Donc, au-delà même d'une préparation, pour moi, j'ai l'impression que le match face à Monaco peut être plus difficile que celui face à la Real Sociedad.
Alors, on va retrouver Solal avant de donner la parole à notre journaliste.
J'ai une question Allison. À vous poser, plus particulièrement à Allison. En vrai, c'est plutôt un avis qui fait partie des unpopular opinions about football. Mais je trouve que sur ces 5, 6, voire 8 années, on parle souvent de Marseille comme
le
dauphin éternel du PSG de par son symbole, sa notoriété et ses résultats. Ouais. Mais je trouve que depuis 7-8 ans, écoutez, le vrai dauphin du PSG, même si dans le classement ça se voit moins, pour moi c'est Monaco parce qu'ils arrivent à tenir tête au PSG, ils arrivent à vendre des joueurs chers, ils arrivent à garder une certaine régularité, une certaine, bon là un peu moins en Europe, mais ils ont toujours su faire bouger des grosses équipes et de manière un peu constante. Voilà, il y a eu des hauts débats, mais pour moi le vrai cadre de ce PSG là, ça reste quand même Monaco depuis 7-8 ans.
Allison, Monaco,
non,
PSG.
Je suis tout à fait d'accord avec Solal. La rivalité avec Marseille, c'est plus, surtout sur ces dernières années, c'est plus une rivalité médiatique. En termes de terrain et de football, il n'y a pas grand challenge pour le Paris Saint-Germain, à part des sursauts d'orgueil de Marseille. Il n'y a pas match. Qu'on se le dise. Effectivement, le vrai dauphin, ou du moins le vrai concurrent qui devrait. Du moins être le vrai concurrent du Paris Saint-Germain, c'est Monaco. Cependant, sur le terrain, là encore une fois, ça se retranscrit pas. Monaco a du mal à passer un cap. On voit que des fois ça peut être très bon, des fois ça peut balbutier. Cette saison par exemple, ça résiste bien contre les gros, si je me trompe pas. Monaco n'a pas perdu contre un gros cette saison. Donc là, le match de ce soir contre le Paris Saint-Germain aura droit à une vraie affiche et un vrai concurrent qui sera lui tenir tête. Cependant, les Monégas, c'est ça, c'est mi-figue, mi-raisin. Au classement, ça reste troisième. Là, il y a une possibilité de reprendre la deuxième place devant Brest, mais avec un match en plus, si Monaco s'impose ce soir. Donc, voilà, ça balbutie encore. Ça devrait être la concurrence de Paris Saint-Germain, mais intrinsèquement, ça ne l'est pas vraiment.
Et pour moi, ce qui fonctionne, excusez-moi, chers amis, si vous voulez dire quelque chose, mais pour moi, ce qui fonctionne aussi avec ce Monaco-là, et ce que commence à faire Marseille, c'est s'intéresser. Parce que voilà, leur centre de formation, on en parle peut-être beaucoup ou pas assez, mais c'est quand même déjà monstrueux ce qu'ils arrivent à produire en termes de qualité de joueurs qui peuvent ensuite migrer dans plein de clubs internationaux. Mais surtout, ce qui est important, c'est que Monaco arrive à faire une liaison pour des joueurs qui ont leur carrière un peu derrière eux depuis déjà des années. Là où aujourd'hui, on pense à ce Marseille-là qui avait recruté Alexis Sanchez de manière, on ne sait pas si c'était par dépit ou si c'était un vrai recrutement, mais ça n'a pas fonctionné.
Ouais.
Monaco, ils n'ont pas attendu les années 2018 pour recruter des joueurs en fin de carrière qui pourraient apporter quelque chose. On se souvient de ce magnifique but de Falcao qui commençait déjà presque à raccrocher ses crampons avec un lob face à Manchester City. Et ça contribue aussi pour moi à la liaison intergénérationnelle dans un club, ce que met en pratique Monaco et ce qui leur réussit, je trouve, depuis un bon moment déjà par rapport à Marseille.
Mais au contrario, on pourrait aussi dire que Monaco a des problèmes sur certains postes. On pense de gardien.
Oui.
Par contre, on peut se poser des questions. Ça tourne, ça vire, ça revient. T'es premier gardien, ensuite non, je te veux plus. T'es deuxième gardien. Et finalement, le deuxième gardien, si il y a 2-3 boulettes, et ben finalement, je te veux plus. Alors que on a dit que on te voulait de base. Donc, à contrario de ce que tu dis, même si je suis formellement d'accord, ça fait 3, 4, voire même 5 ans que sur le poste de gardien, on peut se poser des questions.
Nasser, on poursuit.
Oui, pour poursuivre sur ce que disait Allison. Attention, ce soir, nous sommes peut-être à un tournant de la saison pour l'AS Monaco, en sachant qu'il faudra absolument prendre des points si elle veut espérer l'Europe. Car vous le savez, les autres, que ce soit le Racing Club de Lens, que ce soit le Stade Rennais qui marche comme une fusée ces derniers temps, et puis bien sûr le Stade Brestois qui est deuxième de ce classement, et le dauphin de cette Ligue 1. Il faut le dire ce soir.
Il faut le dire,
et donc,
bien sûr.
Et donc, si ce soir, Monaco perdait des points à domicile, on serait sûrement un tournant dans ce championnat.
Allez, on a qui ? On a Soufiane qui nous écoute. Vivien, sois un peu confiant pour le Paris Saint-Germain. Amel qui nous écoute et qui dit Alisson, elle est au top ce soir. Et sans oublier aussi Malik, tout à fait d'accord avec le réalisateur Solal. Voilà, ça c'est la réaction que l'on peut retrouver sur la twittosphère. Justement, Moussa, le PSG, oui, ce Paris Saint-Germain, avant de parler de Noblard.
Alors, le PSG, pour l'instant, je pense qu'il est... il navigue à vue. Alors il y a les problèmes avec internes là en ce moment entre Kylian et Luis Enrique. Je me demande qu'est-ce que ça va donner ce soir. Est-ce qu'il va le faire rentrer dès le début? Est-ce qu'il va le faire sortir? Je pense que cette histoire. On n'a pas fini de l'entendre.
Ouais, ça va être un petit peu.
C'est vrai. Assez après, c'est vrai qu'il faut pas manquer de respect à l'AS Monaco. Ouais. Mais au-delà d'être un dauphin, c'est un peu l'antagoniste du Paris Saint-Germain.
Oui.
Ce que l'AS Monaco réussit à faire, comme l'a dit Solal, c'est très bien vendre à des prix vraiment exorbitants des fois. Ce que n'arrive pas à faire le Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain peut se permettre d'acheter et de miser des grosses sommes sur certains joueurs. Ce que l'AS Monaco ne fait pas. L'AS Monaco mise sur des joueurs un peu moins cher. Oui, ils ne le font plus. Après, le dernier gros transfert en vue de l'AS Monaco qui valait vraiment son prix et qui était une recrue star, c'était James Rodriguez. Après, ouais. Parce que Radamel Falcao, comme l'a dit Solal, était en fin de carrière. Donc, c'était pas le recrutement phare pour ton équipe. Aujourd'hui, ils sont un peu victimes de leur succès. Quand ils se font piller tous leurs talents lorsqu'ils remportent le championnat, je pense à Kylian Mbappé, mais les Bernardo Silva, Djibril Sidibé, Fabinho qui formaient cette équipe vraiment monstrueuse. Bah, ça n'a pas trop posé de problème à l'AS Monaco. C'était vraiment une aubaine pour eux de revendre tous ces joueurs et de faire un bénéfice. Donc c'est pour ça qu'ils auront du mal un peu à s'asseoir à la même table que le Paris Saint-Germain. Par contre, ils n'ont aucun problème sur le plan footballistique à s'adapter à cette équipe. Ça se voit au classement, ça se voit dans le jeu. À voir s'ils arriveront à concrétiser ce soir encore une fois.
Ouais, pour toi ?
Pour moi, je pense que ça va être difficile pour eux, sachant que le Paris Saint-Germain est encore en forme. Et que si Kylian Mbappé débute la rencontre avec des envies de revanche et un sursaut d'orgueil, pourquoi pas, ça risque d'être compliqué pour l'équipe du Rocher.
Et pour Alisson ?
Ouais, j'ai entendu Vivian tout à l'heure, je l'ai senti très pessimiste et frileux sur le Paris Saint-Germain quand même. Effectivement, il y a pas mal d'absents et de blessés du côté du Paris Saint-Germain, mais ça peut tenir face à Monaco et ça doit tenir.
En principe,
Alisson,
hein.
ça va passer contre la Real Sociedad.
Si
tu gagnes 2-0 à l'aller, que t'es premier avec un petit matelas en plus et que tu commences à paniquer. Dans ce cas-là,
Alisson,
on raccroche les crampons.
Ah bon, on l'a déjà vu. Hein.
Non, on l'a déjà vu.
Hein. C'est pour ça que Vivien le rappelle.
Il faut pas installer ce climat de peur de manière perpétuelle. Veux dire, là, tous les feux sont au vert. C'est quand même la Real Sociedad, avec tout le respect que j'ai pour eux. C'est une équipe qui ne s'est pas marquée de but, qu'on le dise. C'est une équipe qui, soi-disant, en prenait très peu, mais on a pris deux quand même au match aller. Donc là, si le Paris Saint-Germain n'est pas confiant à l'aube d'entamer cette rencontre contre Monaco, puis ensuite enchaîné contre la Real Sociedad, dans ce cas-là, que Kylian aille directement au Real Madrid, fin de saison, on tire le rideau et on enchaîne.
Il n'a pas encore signé à Madrid.
Ou à Brest, ou à Marseille, ou à la GSK.
Il négocie fortement pour un GSK billet, donc je ne vois pas pourquoi. Il peut aller au tout-puissant Mazembe.
Il
peut aller au Cosmos de New York.
Il peut aller très très loin. Peut-être il a une stat, Solal.
Ouais,
il a une stat, on va revenir à l'instant.
Ça vous aura pas échappé, chers amis et fans de BPL.
Ouais.
C'est le numéro 18 qui joue à l'AS Monaco, qui s'appelle Takumi Minamino, qui avait joué à Liverpool anciennement et qui a un ratio de buts. Je pense qu'il a rien à envier à un attaquant moderne. Il joue aussi milieu offensif. Et depuis un certain temps, il commence à bien se révéler, en tout cas, avoir une qualité de jeu, de dribble, de placement qui est rare, je trouve, dans cette Ligue 1 Uber Eats. Et il n'est pas mis assez en valeur. Donc voilà, je remercie aussi la Ligue 1 qui, à travers un poste, l'a comparé à Neymar, et je pense que la comparaison est flatteuse, mais aussi s'avérer réelle sur cet aspect-là. Attention à Minamino ce soir.
Mais Minamino, il représente vraiment ce que tu disais sur la gestion et sur la volonté de l'AS Monaco de ramener certains joueurs. Solal, on vise pas gros, mais on vise juste. C'est vrai qu'il a eu du mal du côté de Liverpool. Peut-être que la première ligue n'était juste pas un championnat fait pour lui. Quand tu le compares à Neymar, il fait juste partie de cette génération dorée japonaise.
Bien sûr.
Avec plein de joueurs, je pense à Kubo, je pense au joueur japonais de Brighton, j'ai oublié son nom, il a un master de dribble. C'est véridique, hein, il a vraiment un master en sociologie, en dribble.
Ouais.
C'est une génération dorée et visée juste comme ça. C'est impressionnant de la part de l'AS Monaco et oui, c'est très beau pour le championnat de la Ligue.
Nasser, bah
après,
on écoute.
Ouais, pour finir sur le Paris Saint-Germain, reste quand même une équipe alléchante. La composition de l'équipe vient de tomber. Alors. Moi, je vois que Beraldo avec Mukiele derrière avec Hakimi et Hernandez, ça reste quand même une défense qui peut tenir le coup face à Monaco. Si elle tient pas le coup face à l'AS Monaco, elle pourra pas aller loin en Ligue des Champions puisque le but du Paris Saint-Germain, c'est de remporter le titre suprême. Donc ce soir, je ne vois pas avec cette composition d'équipe normalement, même si je me contredis puisqu'au tout début je ne pensais pas qu'il y allait avoir une défense à plat à 4 avec l'absence de Marquinhos notamment qui va faire mal, mais je vois bien le PSG quand même faire un résultat face à Monaco malgré tout.
C'est une défense qui peut paraître fébrile comme ça et surtout jeune et inexpérimentée avec Mukiele et Beraldo en charnière qui n'ont jamais joué ensemble tout simplement, mais je tiens à rappeler que c'est tombé aujourd'hui. Beraldo a été sélectionné avec la Seleção du Brésil.
Bien sûr.
Donc ça prouve que c'est pas un joueur qu'on considère uniquement comme talentueux et un pari d'avenir, mais que du côté de Rio, il est vu aussi comme un joueur solide défensivement qui mérite d'être titulaire.
Il n'y a plus grand monde de Rio non plus.
C'est ce que j'allais dire à la Seleção
aujourd'hui. Il faut bien trouver des talents.
Vous êtes méchant.
Mais c'est la vérité.
Franchement, ils ont un bon calendrier, le Paris Saint-Germain. Après, ils ont ce déplacement à la Sociedad. Franchement, s'ils ne battent pas la Sociedad, là, on rend notre tablier. On est d'accord. Je pense qu'autour de notre table, on pourra critiquer Luis Enrique et les autres.
Tout doucement, il dit.
Faut faire attention avec le PSG. C'est pas fini tant que la cloche. Tu pourrais y laisser ta chemise.
Non, mais moi j'ai toujours dit quand on arrive au mois de mars, c'est les cadeaux et le PSG n'est jamais au mois de mars au rendez-vous. Jamais. Alors j'aimerais bien que cette fois je me trompe et qu'ils arrivent à aller au minimum en demi, voire en finale pour au moins déjouer les choses. Voilà. Mais c'est vrai que tout à l'heure, elle a dit Alisson par rapport même à Mbappé, c'est vrai que franchement sa communication. Bon, excusez-moi, mais là, il a fait une erreur, je pense. Partir au Real Madrid. Non, je ne sais pas si je me suis trompé. Non, peut-être non.
Non,
mais franchement, je vais dire pourquoi il annonce ça maintenant, dire qu'il est au Real Madrid, alors qu'il y a une saison et qu'ils ont potentiellement rencontré le Real Madrid dans pas longtemps.
Parce que c'était aussi dans les attentes du club, peut-être pas de cette manière-là, mais au niveau timing, Kylian Mbappé avait beaucoup de pression pour annoncer quand il devait partir. On ne voulait pas une saga encore Mbappé. On veut aussi préparer l'après Mbappé. Ça veut dire que là, il n'est plus là, on le sait. Il a annoncé qu'il va partir maintenant. On peut travailler sereinement. On peut, pourquoi pas, recruter, qui, à mon sens, on n'a pas besoin à l'heure actuelle de recruter quelqu'un, en tout cas devant. Mais on peut préparer sereinement l'après Kylian Mbappé sans attendre la dernière minute de la saison et de dire, ouais, bah, peut-être que tu vas rester, peut-être pas. Finalement, est-ce qu'on peut faire un gros coup? Ben non, parce que Kylian, on ne sait pas si t'es là ou si t'es pas là. Donc voilà, Luis Enrique pourra travailler sereinement. Et le club aussi. Après, en termes de timing, personne ne trouve ça bon, mais est-ce que vraiment il y a un bon timing pour l'annoncer? Je veux dire que si le Paris Saint-Germain va loin en Ligue des Champions, pire ça sera. Si demain le Paris Saint-Germain rencontre Madrid, là on pourra encore plus se poser des questions et là ça donne encore du grain à moudre aux gens. Donc moi je pense qu'il a bien fait de l'annoncer. On l'attendait depuis longtemps. Quand il n'annonce pas Kylian, tout le monde lui tombe dessus. Quand il l'annonce, tout le monde lui tombe dessus. Donc il faudrait savoir où on a mal. Moi je trouve que c'est une bonne chose et on peut enfin passer à autre chose au Paris Saint-Germain.
Alors restez avec nous. On va revenir avec Moussa, notre spécialiste des sports de combat, avec justement du Noblard et sans oublier aussi l'Olympique de Marseille.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Avant de retrouver la cité phocéenne, justement le sud de la France où il fait moins froid qu'à Paris, hein, en tout cas, c'est vrai, c'est une vérité, Vivien. Hein. On va passer le week-end là-bas, c'est ça, Vivien? Oui, on parle ce soir.
En tout cas, on est toujours bien reçu à Marseille. Et on aimerait faire une émission sur le Vieux-Port.
Ah,
en débattant.
Ça serait bien. Vraiment. Et à Rome aussi, oui, la série nouveau.
On a déjà reçu un collègue de France de 100% web, embarqué d'Adouche.
C'est ça.
On lui a appris quelque chose sur Marseille, deux, trois trucs. Il ne maîtrisait pas très bien son sujet, mais c'était très sympa malgré tout.
Tu parles demain, je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui.
Oui, oui, non, je l'embête, mais c'est quelqu'un. Voilà qui est président d'un club dans le 10e et qui fait un excellent travail d'ailleurs pour le coup.
Très sympa, Omar.
Il est très, très sympa et très compétent.
Et justement, on est avec toute l'équipe, je le rappelle, autour de cette table. Pour m'accompagner, on a notre journaliste consultant Alison, Moha aussi, qui est avec nous. Notre journaliste consultant, on a aussi Nasser, qui est avec nous. Sans oublier Moussa. Et oui, Moussa, qu'on va retrouver avant de partir du côté de Marseille.
Time Sport, le mode pressing.
Il a sorti un tube. Justement, c'est Solal. Je sais pas si tu l'as écouté. Hein.
Non, pas du tout. On s'est fait tourner. Si, bien sûr, dans sa cuisine.
Ouais,
mais bien sûr.
C'est ça.
Bien sûr.
Voilà. Ah, mais oui. C'était pas celui-là, mais il est assez sympa. C'est pas celui-là, moi. Moi, j'ai dormi avec, mais c'était un autre. Alors, justement, la boxe.
Ah, la boxe. La boxe.
On dit quoi sur cette boxe?
On s'est quitté la semaine dernière avec un choc franco-français au masculin. Et hier, c'était du côté du casino d'Angers. C'était un choc au féminin entre Rima Ayadi et Licia Boudersa. C'est un gros choc très attendu, une rencontre qui a été très serrée jusqu'au bout, un scénario presque hollywoodien, dans une très très belle salle, une belle organisation. Hein. Je pense que c'était
un titre européen, en tout cas.
Et c'était pour un titre européen, le titre des Super Plumes. Et voilà, les juges ont décidé à l'unanimité, mais d'un score très serré. Hein. On a eu un 94-96 pour ceux qui connaissent. On a eu un 95-96 pour Rima Ayadi qui remporte cette ceinture des Super Plumes. C'est la première fois qu'elle est championne d'Europe. Licia Boudersa, elle l'avait été, mais dans la catégorie en dessous. Que dire, Rima, c'est une belle histoire. C'est une histoire à la One Million Dollar Baby.
Ah, carrément.
C'est un film. Il y a huit ans, elle connaissait pas la boxe.
Ouais.
Elle était chauffeur Uber, je crois. Elle a gravi tous les échelons. Amateur, elle est passée pro avec Abadi Alab, son entraîneur, son mentor, et là qui l'a ramené, il lui avait promis, hein, je vais te ramener au sommet de l'Europe.
Ouais.
C'est fait. L'histoire est vraiment incroyable.
On peut retrouver que cela dans la boxe. On le dit à chaque fois. C'est vrai. C'est rare dans le football. Mais dans la boxe, c'est ça.
Je sais pas, parce que la boxe c'est quand même un sport particulier.
Ouais.
Ça veut dire que au-delà des capacités physiques, il faut avoir des capacités mentales. Vous envoyez des coups, mais vous les prenez aussi.
Aussi, hein.
Donc voilà, vraiment chapeau à elle, chapeau à Alicia aussi qui a fait, parce qu'il faut être deux pour faire un beau combat, et c'est ce qui a été hier.
Championne, ok. Aujourd'hui aussi, sur le vieux continent, en Europe et aussi à l'échelle internationale. Qu'en dire de nos boxeuses françaises?
Alors, Moussa, dans la même catégorie, vous avez Ilem Mekaled, qui vient de Lyon et qui s'entraîne aussi à Paris, pas très loin d'ici d'ailleurs, à Noisy-le-Grand. Alors j'ai demandé après à son entraîneur peut-être un autre choc entre ces deux-là, Rima et Ilem, serait possible. Pourquoi pas, comme on dit en anglais, money talk.
Ouais.
Si les promoteurs
sont
suivent,
là, au rendez-vous.
Pourquoi pas.
Ouais.
Après, peut-être qu'on verra pour le monde, mais bon, voilà, c'est Rima, elle a déjà 34 ans. Peut-être que elle a peut-être encore deux ou trois combats à faire. Après, on verra. Hein, qui sait si elle a une bonne opportunité. Un promoteur américain puisse lui monter un combat. Pourquoi pas?
On l'espère en tout cas. Un grand merci. Les dates, les autres dates, peut-être à venir.
Juste aujourd'hui.
Alors, ouais. Oui, aujourd'hui. C'est tout frais. On va enchaîner les combats. Hein.
C'est tout frais.
Entre Bilal, aujourd'hui et la semaine prochaine.
Bilal Skitou. Bilal Skitou est devenu champion d'Afrique WBA. C'était
bravo à lui.
C'était à Benghazi, en Libye. Il a gagné. C'était encore serré contre un Tanzanien qui était dur au mal. Voilà, félicitations à lui. On a une grosse semaine de combats de boxe qui arrive. Vous avez Doumbé contre Baki qui sera jeudi.
On essaiera d'avoir Cédric. On avait déjà eu sur cette antenne d'émission. Oui, bien sûr. Il est venu. Il avait déjà commencé à trash-talker pas mal de monde.
Il est venu de Saft à l'époque.
À l'époque, il a juste dit Bilal, c'est mort. Continuez avec le continent le lendemain en Arabie Saoudite, vous aurez Joshua contre Francis Ngannou.
Incroyable,
c'est ça.
Donc voilà, encore une belle histoire, tiens.
Ouais, là aussi, Francis Ngannou, bien sûr, on suit de près aussi.
Il y a encore des choses sur le week-end. Vous avez Sofiane, je vais oublier le nom. Leidouni. Leidouni, que je suis allé voir en camp, qui va combattre le numéro 1, Rico Verhoeven, au Glory, c'est du pied-point.
Ben là aussi. Merci Moussa, on retrouvera la semaine prochaine, c'est parfait. Et oui, concernant toutes ces disciplines de sport de combat. On rejoint Marseille cette fois-ci. Et oui, c'est Marseille, la sérénité et le calme du coach nous ont apporté beaucoup de confiance. Voilà, c'est les compliments d'un certain Minarit olympien envers son entraîneur Jean-Louis Gasset. C'est bien ça ? Eh oui, ça fait plaisir. Marseille se déplace demain du côté de Clermont Foot.
Ça fait plaisir, ça leur fait plaisir pour l'instant, la sérénité, parce que Marseille est peut-être
pessimiste,
peut-être en incapacité de trop crier dû à son âge. Non, je rigole, c'est petit.
Alors,
c'est
que je. Vas-y, vas-y. Petit.
Non, mais moi, pour revenir à Jean-Luc Gasset, déjà ça m'a étonné ce choix-là de la part de l'Olympique de Marseille, sachant. Je ne remets pas en question ce qu'a fait Gasset sur le continent, parce qu'on sait qu'il a redressé des clubs, qu'il a emmené des clubs français loin, mais c'est plutôt sur l'histoire et sur la transition, comment elle s'est faite. On sait qu'il a été viré de la Côte d'Ivoire un peu comme un malpropre, qui était décrié aussi pour ses choix tactiques. Et ensuite, il vient à Marseille, une équipe malade qui a un entraîneur actuel qui est décrié aussi pour les choix tactiques. J'ai pas trop compris la transition, mais en tout cas pour l'instant Marseille me donne tort. On l'a vu dans le match de Coupe d'Europe qu'il a remis quasi toute la totalité des joueurs à leur poste. Il a dit qu'il serait pragmatique, il est là pour faire des choses simples, qu'il est là pour redonner confiance à ses joueurs, qu'il est là pour les faire jouer à leur poste, qu'il est là aussi pour revenir dans un schéma beaucoup plus simple. Et le message commence à arriver, parce que on voit que les automatismes du côté de Marseille reviennent, qu'ils se comprennent mieux, qu'Aubameyang arrive de nouveau ou à nouveau du moins à jouer au football, qu'il arrive à mettre un pied devant l'autre, que Amin Harit aussi est content et heureux, qu'il arrive à comprendre le système mis en place à Marseille. Et on voit que, alors ça fait pas longtemps, ça fait que deux matchs pour l'instant, mais on voit que l'OM revient tout doucement et se rééquilibre et redevient une équipe normale. Pour l'instant.
Je rejoins ce que tu dis, Alison. C'est vrai que les deux contextes sont un peu différents, que ce soit sur le continent africain ou en Europe. Moi, j'étais vachement pessimiste à son arrivée à Marseille, parce que pour moi, le club était vraiment en difficulté. Et tu ramènes quelqu'un qui a galéré avec sûrement une des équipes de Côte d'Ivoire les plus solides de tous les temps. Après, comme tu l'as dit, il nous donne tort. Mais comme on l'avait dit sur le plateau de Time Sport la dernière fois, c'est une question de long terme. Il aurait pu perdre les deux premiers matchs. On aurait été honnête et il fallait dire oui, bah faut attendre le reste et tu peux pas juger un entraîneur uniquement sur deux matchs. Il faut lui laisser le temps. Moi, je trouve que c'est un bon test pour Marseille, parce que là, il est un peu privé de quelques cadres. Je pense à Samuel Gigot, à Veretout aussi, et aussi Rongier qui est blessé depuis un certain temps. À voir comment il va se débrouiller avec un effectif qui est un peu en deçà de ce qu'il a d'habitude. S'il va savoir se débrouiller, s'il va savoir bricoler vraiment avec un club qui est déjà malade. Après, personnellement, Samuel Gigot, c'est pas une grande perte pour l'Olympique de Marseille. Je pense qu'ils ont connu des défenseurs un peu plus solides et un peu plus sereins dans la surface de réparation. À voir comment il va se débrouiller. Clermont, c'est censé être à la hauteur de Marseille, très simplement.
Au niveau du classement aussi, hein, c'est oui, à la hauteur sûr. De Marseille.
C'est, bah, malheureusement, c'est mais c'est pas censé être le cas, hein, c'est, pour une équipe comme Marseille. À voir comment il va se débrouiller. Si c'est une troisième victoire consécutive, tant mieux pour lui et pour les Olympiens. Il faudra juste continuer le travail parce que c'est Marseille et c'est pas juste trois victoires sur une saison.
Ouais. Moussa, avec aussi Vivien, cet Olympique de Marseille.
Bah moi je suis sur Gasset.
Gagnante pour le moment.
Oui, donc bah pour l'instant voilà, il est arrivé, il a passé la pommade, il a fait de la kalinothérapie, ça a marché. Moi je suis quand même assez sceptique parce que moi je croyais que le profil idéal, et je maintiens toujours, pour moi c'était Roland Courbis. Quitte à avoir quelqu'un pour 3-4 mois, j'aurais vraiment misé sur le Courbis parce que pour moi c'est quelqu'un qui mettrait son moment encore mieux ce contexte marseillais. Donc oui. Là, voilà, effectivement, il y a eu un bon début. Je sais pas, c'est mais le gros souci, c'est que pour moi, déjà, je trouve que l'OM n'a pas une grosse profondeur de banc. Et c'est là où, déjà, avec les absents, faut se souvenir, ces dernières années, on a tapé sur beaucoup de joueurs. Et finalement, il y en a plein qui sont partis. On se dit, même c'est Sanchez, quoi, qui est troisième attaquant en Italie. Et des fois, je me dis que même des gens qui sont partis, je me dis, peut-être qu'ils auraient fait du bien finalement en ce moment. Donc, Moi, cette OM, je me dis, alors, est-ce que, avec l'OM de Gasset, on va pouvoir accrocher, aller à une Europa League? Ben, moi, je serais surpris, hein, parce que la Ligue 1, ça avance très fort devant. Brest, on va.
Ça joue Villarreal cette semaine, hein.
Oui, et puis, ouais, et puis surtout, sur une Ligue 1 à 34 journées, on voit bien que Brest, pour moi, ils vont être sur le podium, que ça avance assez bien et que Monaco aussi sera pas loin. Enfin, donc, je sais pas, c'est. Voilà, c'est une saison comme ça. Voilà, c'est une saison de transition et voilà. Je pense qu'il va faire le boulot, comme on dit, mais faut déjà se projeter sur l'année prochaine et c'est ça qui va être compliqué.
Il va faire le boulot, mais quel boulot il va faire?
Une saison de transition, une saison de plus à faire une transition.
Si t'es pas européen, tu fais pas le boulot à Marseille. Ah bah oui.
Mais Fachat. Quand tu parles de joueurs qu'on perd et qu'on regrette à Marseille, tu penses à Matteo Guendouzi peut-être?
Oui, bon, ça c'est un cas.
Il joue face au Milan, il est en pleine bourre
avec la Lazio, il s'impose là-bas. Moi, sur le style de joueur, c'est pas un style de joueur que j'apprécie. Après, bon, humainement, de ne pas vouloir porter le maillot du Paris Saint-Germain avec l'équipe de France, ça m'a un peu touché peut-être, mais une équipe comme Marseille, que t'es censé gérer parfaitement.
Demain,
tu lui mets plusieurs entraîneurs qui ne font pas jouer. Il a lui-même expliqué en interview. À chaque fois que l'entraîneur change, je me sentais pas à l'aise, pas à son bon poste. Aujourd'hui, tu peux le critiquer autant que tu veux. Mais tu peux le critiquer autant que tu veux, Bilal. Mais c'est un joueur qui a réussi à s'imposer au milieu de terrain de Marseille.
Pas faux.
Et c'est quelqu'un qui était un des cadres de cette équipe. Aujourd'hui, tu te retrouves, tu perds Veretout et Rongé au milieu de terrain. Tu peux pas critiquer Guendouzi et son absence. Normalement, t'es censé avoir un cadre comme ça qui peut tenir la baraque. Et la gestion, elle est difficile pour Marseille.
Alors,
encore.
Nasser, avant de retrouver Jouba et Solal aussi. Oui, cet Olympique de Marseille, justement, avec son équipe et Monsieur Gasset. Oui, ça me fait sourire, Nasser.
Non, mais ça me fait sourire parce que c'est une équipe qui a des bons résultats, des mauvais résultats. Elle n'est pas constante, j'allais dire, dans sa saison. Et à chaque fois, c'est pareil. C'est toujours l'euphorie. C'est comme en début de saison. On dit l'Olympique de Marseille, on va recruter des grands joueurs. Et puis à la fin, il n'y a rien. Et bien là, c'est pareil. Là, on a deux bons résultats. Vous verrez la semaine prochaine ou dans deux semaines. Déjà, face à Montpellier Hérault, en première période, on avait pu voir que Marseille avait été vraiment secoué. Et encore une fois, elle est revenue grâce à, encore une fois, des individualités. Je pense notamment à Aubameyang. Heureusement qu'il y a encore Amin Harit qui est là pour sauver les meubles. Moi, je dis que attendons encore quelques semaines, attendons encore même plusieurs mois avant de faire un jugement sur cet Olympique de Marseille de Jean-Louis Gasset.
Eh oui. Alors.
Ouais, on approche de la fin d'émission, chers amis.
Mais carrément. Lui, c'est improvisé présentateur. Mais vas-y, on approche devant la fin. Mais c'est le top du top, ça.
Il y a un petit point. Il y a un petit point, malheureusement, où je peux pas être d'accord avec vous. C'est vrai que ce mot transition, mais moi, je peux l'utiliser de manière inconsciente. Et le staff de l'OM en abuse. J'ai envie de dire, quand une transition, elle dure sur plus de 3 ans, c'est plus une transition, mais c'est énorme, il faut l'accepter. Cette OM, j'osais pas dire les termes, attention pour ceux qui nous écoutent, faut écouter avec
ceux qui nous écoutent, alors attention, parce que c'est deux Parisiens qui sont en train de parler concernant l'Olympique de Marseille.
C'est devenu une habitude avec cette OM, et ils ont besoin d'une transition, c'est ça dont ils ont besoin, mais là ils sont clairement en transition.
Une vente va arriver du côté de Marseille, peut-être.
Il y a du respect pour le championnat de la Ligue 1 et la figure de pro qui est l'Olympique de Marseille dans ce championnat, tout simplement. Je peux être parisien ou pas, j'ai envie, pour la beauté du football, de voir une excellente gestion de ce club.
J'espère que les auditeurs te...
Non, non, mais il faut le dire, c'est pour la beauté du football. Alors, quand tu vois une légende, un club légendaire souillé à ce point par une mauvaise gestion, ça ne peut que t'attrister, rivalité ou pas.
Ouais, rivalité ou pas. Moussa, moi, on termine avec toi, Moussa.
Moi, j'en,
c'est la fin de l'émission.
J'ai envie de croire à cette OM, à une équipe revanchard, avec un coach aussi, je pense aussi revanchard.
Aussi.
Qui a vu sa, l'équipe avec laquelle il aurait
surtout
pu...
Surtout critiqué en France, hein.
Ouais,
critiqué mis France. À part l'Afrique, mais surtout critiqué.
Mais en France,
il
critique même le Ballon d'Or.
Bien sûr.
Donc, non, moi, j'ai envie de croire. Après, je pense que le résultat de cette journée-là sera déterminant pour la suite du championnat de l'Olympique de Marseille.
On va voir. Pronostic ce soir, Nasser. Le Paris Saint-Germain face à Monaco. Ah,
je
t'écoute.
Je vois une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2-1.
Ouais.
Et puis voilà.
Moussa, Monaco au PSG.
Je ferai le contraire, l'inverse pour moi. Ouais. 2-1 pour Monaco.
2-1 pour Monaco. Moha, on t'écoute.
2-0 pour Paris, doublé de Kylian.
Et là, c'est serein. Vivien, on t'écoute.
Alors, je vais quand même dire, allez, 2-0 pour Paris également.
2-0 pour Paris.
Journée au boulot.
2-2.
Alisson.
Match nul, 2-2.
2-2. Solal, alors et toi ?
Je sais pas pourquoi, mais je vois un but contre son camp de Kylian Mbappé. Ne me posez pas la question, okay. Je n'aurai pas de réponse. Okay.
On va voir.
Mais
on va voir.
Lundi quand ce sera peut-être.
On va voir.
D'accord.
Eh oui, là-bas c'est du football. C'est Mourad qui me le dit. C'est pas ici. C'est du football, ça Nasser. C'est Mourad qui me le dit. Non, je sais pas. Je sais pas qui respecter, qui pas respecter. Vous restez avec nous. Il y a la suite des programmes qui vient sur Beurre FM avec Vanessa, 21h, 23h. Et nous, on se donne rendez-vous dès lundi.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.